Et ce matin, on va s'arrêter sur les versets 11 à 14. Si vous me parlez créole, José Luis, ou cap écrit créole, en pile tout, hein? Alors on va prier pour débuter ce matin. Seigneur, nous voici dans ta présence, implorant ta grâce, ta miséricorde et ta bonté envers nous. Implorant, Seigneur, que tu déverses sur nous la parole que tu as préparée de toute éternité. Nous savons, Seigneur, qu'elle n'est pas le fruit d'une réflexion ponctuelle. Elle est le fruit, Seigneur, d'une inspiration qui vient de toi, de toute éternité. Tu avais prévu ces temps-ci. Tu avais pourvu d'avance pour la parole dont nous avions besoin dans cette époque-ci. Alors nous te demandons, Seigneur, comme tu l'as fait si souvent et comme tu l'as fait, Seigneur, depuis le début de notre programme de bénédiction matinale, parle à nos cœurs, parle à notre entendement, parle à notre esprit. Dis-nous, Seigneur, non pas ce que nous voulons entendre, mais ce que nous avons besoin d'entendre. Et qu'en toute chose, Seigneur, que ce soit à travers nos actions, nos paroles, à travers notre mode de vie, à travers tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, Seigneur, que tu sois honoré, que tu sois élevé, que ton nom, Seigneur, soit proclamé bien haut, comme étant la seule source de salut pour nous tous. En toute chose, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Maintenant, durant toute cette journée, durant cette semaine qui débute, et Seigneur, bien au-delà, jusque dans l'éternité, nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous dans Deutéronome au chapitre 15, Deutéronome chapitre 15, du verset 11 à 14. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Alors que le Seigneur bénisse une fois de plus sa parole ce matin. Comme j'expliquais hier en préambule à la prédication, il y a différents sujets qui sont très agréables à traiter en tant que pasteur et qui semblent relativement faciles émotionnellement ou intellectuellement, voire même spirituellement à partager. Il y a d'autres sujets qui sont parfois plus ardus, notamment des sujets comme l'argent. Un pasteur peut avoir parfois certaines craintes de parler des offrandes, de la dîme, parce qu'il a ce malaise en se disant « peut-être que les gens vont dire qu'il prêche pour sa propre paroisse. Si je donne davantage à l'Église, ça fait donc qu'il s'en met davantage dans les poches. » Et par crainte qu'on se méprenne sur ses intentions, parfois un pasteur va hésiter à parler de l'argent. Et j'admets que ce n'est pas un sujet qu'on traite régulièrement chez nous, parce que ce n'est pas un sujet qui est nécessairement des plus importants au niveau de la parole de Dieu, mais à l'occasion, on prend effectivement nos responsabilités et on enseigne sur la question de la dîme, sur la question des offrandes et des dons envers l'œuvre de Dieu. Un autre sujet qui est douloureux parfois, c'est le sujet du pardon, le sujet de manifester l'amour dans nos actions, dans nos façons d'être. Parce que là, on a l'impression, mais les gens vont se rappeler une conversation, une réponse peut-être un peu plus dure, peut-être une réponse un peu moins douce qu'on a pu accorder à quelqu'un dans une réunion, dans une conversation ou autre. Puis là, on se dit, bon, les gens vont tout de suite mettre le doigt sur nous. Et un autre sujet qu'on n'aime pas traiter, et j'expliquais hier matin que certainement plusieurs pasteurs me diraient, Florent ne parle pas de ça, mais ça aurait été malhonnête de ne pas parler du sujet en question, parce que ça fait partie de l'enseignement du jubilé. Depuis maintenant un an et demi que je sais qu'il fallait que j'enseigne sur le jubilé, puisque l'année du 50e anniversaire de l'Église arrivait, je savais que ça se compléterait par ce sujet-là. Et foncièrement, sans redouter la journée, j'appréhendais quand même cette journée, sachant que parfois on prend la parole, on y retire ce qu'on en a envie, on en retire plutôt ce qu'on en a envie, et on essaie de justifier des actions ou autres. Et le sujet en question, c'est le sujet du départ. La parole de Dieu, dans le texte que nous avons lu, nous dit que lorsque quelqu'un devient l'esclave d'un autre, rendu à la septième année, un peu comme la remise des dettes, la septième année, il est libéré. Si la personne avait énormément de dettes qui ne pouvaient pas être rencontrées strictement par un travail un peu plus ardu, par une vente d'une portion du terrain, la personne pouvait être amenée à vendre sa propre personne à son créancier et puis travailler pour elle pendant 6 ans. Donc, elle remboursait sa dette à force de travail. Et après la 6e année, on tombait donc dans cette année de relâche, dans cette année de jachère pour le terrain, mais aussi pour l'ensemble du peuple. Et durant cette année, cette 7e année, on renvoyait l'esclave libre de son engagement, libre de sa dette, libre de son allégeance à son maître. Et parfois, lorsqu'on aborde cette question du départ, notamment du départ d'une église, comment on quitte une église, pourquoi on quitte une église, on a l'impression que si on en parle, il va y avoir une vague de départ. Et assurément, en me levant hier, c'était une appréhension que j'avais, j'en ai parlé avec le pasteur André avant la prédication, il lui dit ben, tu prieras parce que cette prédication pourrait avoir des conséquences un peu moins agréables sur la congrégation. Mais comme je disais, ça serait malhonnête pour nous de ne pas vous parler d'un tel aspect. Parce que oui, l'abbé nous dit qu'à la 6e année, les gens étaient libérés. Alors si on voulait enseigner adéquatement le jubilé, il nous fallait aussi enseigner la question du départ. Mais le jubilé va beaucoup plus loin que tout simplement une dette remboursée, une dette acquittée, donc un départ de chez son maître, un affranchissement ou autre. Le jubilé est aussi l'occasion de savoir qui tu vas servir, avec qui tu vas travailler, pour qui tu vas travailler. Et c'est une question importante. Alors, quelques balises pour cette semaine. Lorsqu'on parle de départ, on parle ici effectivement de départ d'un corps local. On parle d'un départ d'une famille locale. Lorsque je devenais esclave d'une famille. Je devenais partie prenante d'une famille. Et à la fin de la 6e année, quand j'étais libéré, je quittais donc cette famille. La Bible nous dit pour retourner dans notre héritage ou retourner dans notre patrimoine familial qu'on avait dû abandonner à cause de l'appauvrissement qu'on connaissait. On ne quittait pas le peuple d'Israël, on quittait simplement une famille, on quittait simplement un lieu de rencontre, on quittait simplement un lieu d'emploi. Alors cette semaine, je veux que ça soit très clair, quand on quitte une église, on ne quitte pas nécessairement le Seigneur. Par contre, j'espère être capable de vous montrer pourquoi on quitte une église et comment on devrait quitter une église si effectivement on quitte une église. Mais de surcroît à cela, on quitte aussi une église pour œuvrer ailleurs. Et ça, on va le voir. Donc, la question de cette semaine, c'est pour qui tu vas travailler et avec qui tu vas travailler et comment tu vas travailler. Et si tu ne travailles plus avec ceux avec qui tu travaillais précédemment, comment es-tu parti ou comment pars-tu d'une église? Ça doit être abordé pour qu'on sache bien faire les choses, pour qu'il ne règne pas de désordre et pour que le nom du Seigneur soit élevé, même dans des moments troublants comme le départ d'une église. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans le texte d'aujourd'hui? Le verset 12 nous dit: Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend en toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Une chose qui doit être claire: nous ne pouvons retenir personne de force. Cette semaine, je ne parle pas nécessairement du mariage. Je vais éclairer tout de suite cette question-là du mariage. Le divorce n'est pas un principe de Dieu. Le divorce a été accordé à cause de la dureté du cœur, tel que Jésus va le dire à propos de Moïse. Il va dire: Moïse vous a accordé le droit de répudier votre femme à cause de la dureté de votre cœur. Donc, dans la pensée de Dieu, le mariage était ad vitam aeternam. Le mariage était pour toujours, à moins de la mort d'un des deux parties, ou à moins du reniement des vœux de mariage avec une infidélité dans une des deux parties. Mais hormis ces raisons-là, il y a quelques raisons toutes particulières, mais qui seraient difficiles à expliquer ce matin en peu de temps, et ce n'est pas le cadre de notre enseignement. Mais les raisons du remariage, ce n'est uniquement, bibliquement parlant, que principalement par le décès d'un des deux parties ou par l'adultère d'un des deux parties. Dans le verset 12, nous ne pouvons retenir personne par la force. Une église n'est pas une secte. Une église, y appartenir est une décision. Au même titre où je décide d'y rester, au même titre où je décide de quitter, se joindre à une église est une décision. Au même titre où venir vers Christ est aussi une décision. Lorsque je décide de donner ma vie à Christ, lorsque je décide de lui rendre les rênes de mon existence, c'est moi qui prends une décision. Cette décision n'est pas forcée. Cette décision n'est pas obligée. Si Dieu avait voulu forcer Adam et Ève, ce n'est pas une interdiction qu'il aurait donné à Adam et Ève concernant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il aurait fait en sorte que ce fruit-là, que cet arbre-là n'existe pas. Il l'a laissé là en leur disant: je ne veux pas que vous alliez vers ce fruit, je ne veux pas que vous y goûtiez, mais il leur a laissé le choix de décider s'ils allaient obéir et obtempérer aux demandes qu'il leur faisait, ou s'ils allaient, contrairement à cela, décider d'enfreindre les règles et décider de se mettre en porte-à-faux par rapport aux prescriptions et aux lois divines. Donc, une chose doit être claire: en tant que pasteur, je ne peux retenir personne. Je peux expliquer pourquoi on ne quitte pas une église. Je peux expliquer que, bibliquement parlant, il y a peu de raisons de quitter une église qui soit justifiée. Paul va être assez clair, puisqu'on présume que c'est lui l'auteur du livre aux Hébreux, et il va dire dans le chapitre 10 aux Hébreux: n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de certains. Donc ça, on parle d'une église qui a commencé il y a environ 40 ou 60 ans, et déjà il y a des gens qui ont pris la coutume d'abandonner leur église. Et quand on parle n'abandonnez pas votre assemblée, le terme qui est utilisé ici, ce n'est pas le corps de Christ, on ne parle pas du tout du corps de Christ, on ne parle pas de Dieu, on parle vraiment du rassemblement des croyants, le rassemblement local des croyants. Donc il y avait des gens qui, 40 ans après le début de l'Église, avaient déjà pris le mauvais pli de se promener d'une assemblée à l'autre. Une saison, ils sont quelque part, une saison, ils sont ailleurs. Tant qu'ils sont satisfaits par ce qui s'y fait, par ce qui est enseigné, ils sont là, mais à un moment donné, l'enseignement est un peu plus accrocheur ou un peu plus. Il nous graffine un peu, il nous rabote un peu moins agréablement. Donc certains décident de quitter. Et Paul va dire, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc moi, en tant que pasteur, je peux dire effectivement à quelqu'un, regarde, la Bible nous dit telle chose, alors je ne vois pas comment tu peux justifier bibliquement parlant ton départ. Toutefois, j'entends ta décision, j'entends ce que tu me dis, et je prends acte de ta décision de quitter l'Église, mais par contre, en tant que pasteur, je ne peux pas appuyer ta démarche. La deuxième chose qu'on peut tirer de ce verset 12, c'est que si cette personne est libre la septième année de quitter, c'est qu'elle n'a foncièrement jamais été ta propriété ou notre propriété. Dans les passages qu'on a lus la semaine dernière, dans Lévitique au chapitre 25, vers la fin du chapitre, je crois le verset 58, si je ne m'abuse, il va dire... Car c'est moi qui ai fait sortir ce peuple, on va dire, d'Égypte, je paraphrase, c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte et ils sont mes esclaves, c'est moi qui les ai rachetés et ils sont mes esclaves, alors mon peuple ne sera jamais esclave de quelqu'un d'autre, ils sont mes esclaves. Donc la congrégation n'appartient pas plus à un pasteur. Je ne peux pas retenir quelqu'un. Parce que il fait partie de ma congrégation, il est donc mon âme. Il ne sera jamais mon âme. C'est une âme pour qui je peux avoir de l'affection. C'est une âme pour qui je peux m'en faire, je peux me tracasser, je peux m'inquiéter. C'est une âme qui peut me réjouir. C'est une âme qui peut m'attrister dans ses choix et dans ses décisions. Mais je ne serai jamais le propriétaire de qui que ce soit. En fait, personne d'entre nous n'est propriétaire de qui que ce soit. Même lorsqu'on est marié l'un à l'autre, votre femme n'est pas votre propriété. Votre femme est enfant de Dieu et propriété tout d'abord de Dieu. Moi, je ne suis pas propriété de mon épouse. Je suis le mari de mon épouse, mais foncièrement, je suis premièrement la propriété de Dieu. Et je ne peux pas me comporter avec Daphné comme si elle était ma propriété. Je ne peux pas exiger d'elle ce que j'exigerais d'une chose qui m'appartient. Personne n'est la propriété de qui que ce soit, hormis de Dieu. Dans une église, on doit comprendre cela. Les âmes ne sont pas notre propriété. Donc les âmes ne sont pas à notre service. Les âmes sont aussi au service de Dieu. Une mise en garde que je voudrais faire concernant le verset 12, où il nous dit effectivement que l'homme ou la femme qui s'est vendue à toi, il te servira pendant 6 années, puis la septième, elle va partir, tu vas la renvoyer libre de chez toi. Certains d'entre nous, on aurait le réflexe, parce qu'on sait que les gens vont partir, alors je ne vais pas m'attacher. Ou parce que je sais que cette personne-là pourrait partir, alors je ne vais pas m'attacher. Parce que j'ai connu des gens qui sont venus et qui sont partis par la suite, alors je ne vais pas me donner totalement et je ne vais pas m'accrocher à eux et devenir part de leur vie et eux part de la mienne. Ça serait une erreur. Ça serait une grave erreur. Le peuple de Dieu fonctionne à la base sur des principes d'amour. Et le principe d'amour à la base est un principe de don de soi. Jésus va dire, aimez-vous les uns les autres. Ça veut donc dire que celui que je dois aimer, ce n'est pas moi, mais c'est ceux qui m'entourent. En contrepartie, ceux qui m'entourent sont appelés eux aussi à ne pas s'aimer eux-mêmes, mais à aimer leur entourage, et je fais partie de cet entourage. Donc, si on appliquait effectivement le principe de l'amour biblique et de l'amour chrétien, on serait tous baignés dans un contexte d'amour, d'affection, de soutien, de générosité, d'aide ou d'entraide mutuelle. Malheureusement, étant qui nous sommes, très souvent on prive notre entourage de notre amour, on prive notre prochain de notre amour, On calibre à savoir est-ce que lui le mérite, est-ce que lui le mérite un peu plus, le mérite un peu moins. Si je m'investis, est-ce que je ne vais pas être blessé? Lorsque ma pensée, c'est je vais me protéger, à ce moment-là, je passe ma personne avant l'Église. Je passe ma personne avant le corps de Christ. Et ce faisant, je ne mets pas les priorités au bon endroit. Priorité numéro un étant Christ. La priorité numéro deux étant mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut donc dire que je suis supposé de mettre ce prochain-là en deuxième priorité après Dieu. Donc, l'invitation que je vous fais ce matin, c'est de ne pas arrêter à vous unir avec ceux qui sont autour de vous, même si vous ne savez pas pour combien de temps ils sont là autour de vous. Il y a des gens qui ne veulent pas se donner en amitié parce que ils savent qu'il y a des gens qui sont là pour une saison, puis il y a des gens qui sont là pour toute la vie. Alors, de peur que j'ai mal jaugé la durée de temps dans lequel cette personne à mes côtés va être, alors je me donne partiellement, je me donne avec parcimonie. Christ s'est donné pour nous tous pleinement, totalement, même pour ceux qu'il savait d'avance qu'ils ne se tourneraient jamais vers lui. Jésus a manifesté son amour, a mis son amour à son comble pour toi et pour moi, même s'il savait que ça prendrait des années et des années et des années avant que toi et moi on ne vienne à lui peut-être. Même s'il savait que régulièrement on lui tournerait le dos. Et peut-être dans certains cas, et j'espère que ce n'est pas ceux qui nous regardent ce matin, mais dans certains cas, Jésus, et même dans de nombreux cas, Jésus a donné sa vie pour sauver même celui qui va lui tourner le dos, même celui qui va rejeter son salut, celui qui va refuser son salut. Alors Jésus s'est donné, même s'il savait que certains d'entre eux allaient, ou certains d'entre nous plutôt, n'allaient jamais venir à lui. Jésus n'a pas fait de préférence par rapport à Judas et par rapport aux autres. Pourtant, il savait ce que Judas allait faire, mais Judas a fonctionné pendant 3 ans, jusqu'à cette dernière soirée où il va vendre Jésus. Mais jusqu'à cette dernière soirée, on n'a aucune mention comme quoi Jésus n'a pas traité Judas comme il traitait l'ensemble des 12. Pendant tous les évangiles, le seul moment où on voit que Jésus va traiter différemment Judas, c'est quand il va effectivement dire que c'est celui-là qui va le trahir, mais jamais Jésus ne s'est porté contre eux. Et Jésus s'est malgré tout donné à eux. Jésus a lavé les pieds de Judas comme il a lavé les pieds des autres. Donc Jésus s'est humilié même devant les pieds de Judas, qui savait que dans quelques heures, ces pieds-là vont partir vers le Sanhédrin, vers les pharisiens et vers les religieux pour vendre pour 15 pièces d'argent. Donc, et Jésus, malgré tout, a lavé les pieds de Judas. Jésus, malgré tout, a lavé les pieds de Pierre, sachant que dans quelques heures, Pierre allait se retrouver dans la même cour intérieure que lui, alors qu'il se faisait frapper, flageller, moquer, et que Pierre, avec ses pieds qu'il venait de laver, viendrait malgré tout le renier. Alors Jésus n'a pas fait de différence dans l'amour et l'affection qu'il a donné à l'ensemble de ses proches et à l'ensemble de ses disciples. Et ça devrait effectivement être une instruction pour nous. Effectivement, on ne sait pas qui va rester une saison. Effectivement, on ne sait pas qui va rester 2 saisons. Effectivement, on ne sait pas qui Dieu place à nos côtés pour être avec nous dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu pour une vie complète. Notre appréhension, nos craintes, notre méconnaissance de qui va être là pour une vie ne devrait pas nous empêcher ou nous interdire de nous unir, de nous lier, d'embrasser et d'aimer les gens qui sont à nos côtés. Le verset 13 nous dit « Lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. » Lorsque le chemin vient à nous séparer, lorsque la saison est terminée et que quelqu'un quitte, lorsque nous quittons, cette séparation devrait se faire dans la bénédiction et dans la paix. Jésus est en train de dire, ne fais pas ressentir ou ne fais pas ressortir ton ressentiment. Lorsque quelqu'un doit partir, lorsque quelqu'un décide, parce qu'il a le droit de quitter, ne fais pas sentir ton ressentiment. Et je sais que c'est demandant. Et je parle par expérience de voir quelqu'un qui quitte, que ce soit dans une église, que ce soit dans une équipe de travail, que ce soit quelqu'un qui avait prêté allégeance envers nous, puis là tout d'un coup on se rend compte que ben non, il est parti, il est allé ailleurs, il nous l'a même pas dit dans certains cas, ou parfois il vient juste nous annoncer qu'on sera plus là, ça fait mal. Il n'y a personne qui aime être abandonné, il n'y a personne qui aime être délaissé, il n'y a personne qui aime se faire tourner le dos, il n'y a personne qui aime, après avoir fait un certain investissement dans son entourage, se rendre compte que ben, ce temps-là est terminé et puis que la personne s'en va. C'est jamais un processus agréable, mais malgré la douleur, la tristesse de ce moment-là, notre ressentiment ne devrait pas se manifester. La Bible va nous dire, quand quelqu'un quitte, bénis-le à la place. Donc non seulement bénis-le en parole, mais aussi en gestes et en comportement. C'est triste de voir que dans certaines communautés, dans certaines églises, et assurément peut-être que nous on l'a fait aussi à notre manière, ou peut-être que ça a été perçu comme ça à certaines occasions, lorsque quelqu'un quitte, de faire sentir que cette personne est un peu comme un paria, une personne non grata qu'on ne doit plus fréquenter. Je comprends que la Bible nous dit qu'il y a des gens qui causent des divisions. Et que les gens qui causent des divisions, et la Bible nous l'enseigne clairement dans le Nouveau Testament, Paul en parle régulièrement, qu'on ne doit pas frayer avec ceux qui sont des sources de division. Et la plupart du temps, non pas la plupart du temps, mais souvent, quand on quitte une église, ça se passe dans les mauvais termes. Souvent, il y a des divisions même dans les corps locaux, dans les églises. Et on ne doit pas oublier la division. On ne doit pas faire comme s'il n'y avait pas une division qui s'était faite. Mais lorsque c'est tout simplement un départ et que ce n'est pas une division, ce n'est pas quelqu'un qui dit « moi je pars avec 10, 15, 30, 50 personnes de la congrégation et on va organiser quelque chose ». Lorsque ce n'est pas quelqu'un qui dit « moi je vais tenter de faire venir des gens avec moi », donc tant que ce n'est pas une question de division, mais c'est tout simplement quelqu'un qui dit « j'ai fait mon temps ici, le Seigneur est clair avec moi, il me demande d'aller faire autre chose ailleurs ». On expliquera cette semaine pourquoi on quitte une église et qu'est-ce que ça veut dire aller faire une chose ailleurs. Mais à moins que ce ne soit une division, le départ de qui que ce soit devrait se faire dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité et dans la bénédiction. Le verset 14 nous dit « tu lui feras des présents de ton bétail, de ton aire, donc de ton champ, de ton pressoir, du fruit que tu as récolté, que ce soit le vin, que ce soit l'huile d'olive, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. » Deux choses importantes dans ce verset pour terminer. Premièrement, tout ce que nous avons vient de Dieu. La fin du verset est très claire. Tu lui feras des présents de tout ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Alors, tout ce que tu as n'est pas le fruit de ton travail. Parfois, on est avare, on fait preuve d'avarice, on fait preuve d'égoïsme. Parfois, on ne veut pas bénir les gens qui s'en vont, tout simplement parce qu'on dit « ben, hey, j'ai travaillé fort pour ça, puis eux sont en train de me larguer, donc je ne les bénirai pas ». La Bible est très claire, tout ce que tu as est un fruit de la bénédiction de Dieu. Soit il t'a donné la force pour travailler, soit il a ouvert la porte pour l'emploi, soit il a pourvu financièrement pour cette bénédiction. Si Dieu claque des doigts, en un instant, tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit et ton gain s'évapore et tout ce que tu appelles « tien » se met à flamber sans avertissement. Donc, tout ce que tu as doit être considéré non pas comme ta propriété, mais tout simplement comme un don que Dieu t'a fait, comme étant une provision divine. Et très souvent, on aura peut-être moins de difficultés à partager, on aura moins de difficultés à donner si on comprend que nous-mêmes, ce que nous avons, nous a été donné. Lorsque c'est le fruit de notre travail, on sent une espèce de droit de propriété, on sent une légitimité dans notre désir de restreindre, de réprimer la générosité, parce que j'ai travaillé fort pour ça. Mais lorsque notre pensée, c'est tout ce que j'ai vient de toute manière de Dieu, tout ce que j'ai ne m'a tout simplement qu'été donné, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui l'a placé entre mes mains, bien à ce moment-là, on a moins d'égoïsme, on a moins de protectionnisme, si on pourrait employer un terme plus contemporain par rapport à ça. Dernier point, notre réponse à la bénédiction de Dieu ne devrait pas être l'avarice et l'égoïsme ou l'égocentrisme, mais la générosité. Générosité même avec ceux de qui on sent qu'ils sont en train de nous abandonner. Générosité même avec ceux qui, du jour au lendemain, parfois sans prévenir, nous disent hey, « je suis parti ». Générosité avec ceux qui annoncent leur départ. Générosité parce que tout ce que j'ai me vient de la générosité de Dieu. Et se rendre coupable d'avarice, ça serait plus que tout simplement de l'avarice. Parfois, notre avarice est témoin, épreuve peut-être, plutôt d'une rancœur, d'un manque de pardon, d'un manque d'amour. Parfois, l'avarice est tout simplement « je ne vais pas te gâter parce que tu ne le mérites pas », mais « je ne vais pas te gâter », c'est tout simplement parce que je ne t'aime pas assez, parce que je ne t'ai pas encore pardonné, parce que je ne veux pas te pardonner, parce que, entre guillemets, je ne suis pas encore prêt à te pardonner. Nous ne serons jamais prêts à aimer correctement. Nous ne serons jamais prêts à pardonner correctement. Nous ne serons jamais prêts à laisser aller adéquatement, mais il nous faut malgré tout le faire. Pourquoi? Parce que Dieu le demande, parce que Dieu l'exige, et parce que si je suis chrétien, je ne peux pas faire que la moitié de ce que Dieu me demande, mais je dois viser à faire l'entièreté de ce qu'il me demande, et aussi d'avoir la bonne attitude, même quand des gens partent, d'avoir le bon cœur, même quand des gens nous briment, d'avoir la bonne réaction, même quand des gens par leurs actions ou leurs paroles nous blessent. Donc de ne pas être soupaulet, de ne pas s'emporter. La Bible dit « si tu te mets en colère, ne pêche pas ». Donc il est possible d'être en colère, mais de ne pas pécher. Et parfois ne pas pécher veut donc dire que je dois me taire. Parfois ne pas pécher veut donc dire que parfois je dois mordre les lèvres ou la langue. Parfois ne pas pécher veut donc dire que je dois accepter et ne rien faire parce que je sais que si je fais quelque chose, ça va être une vengeance et la vengeance ne m'appartient pas. Alors en plus d'avoir péché en me mettant en colère, je vais maintenant voler Dieu de ce qui lui appartient, la vengeance et la rétribution. Alors cette semaine, quel est l'objectif? L'objectif, c'est que lorsque nous sommes dans un service, lorsque nous sommes dans une église, lorsque nous sommes avec des gens qui sont autour de nous et qui nous quittent, qu'on puisse vivre le départ de ces gens-là de la bonne manière, de la manière qui honore Dieu, de la manière qui honore aussi l'enfant de Dieu que nous sommes supposés être. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est demandant, je sais que c'est attristant, que c'est douloureux, mais même le départ qu'on voit autour de nous peut se vivre en honorant les demandes et la parole de Dieu et en se conformant à ce que la parole de Dieu demande de nous. Alors voilà, c'était l'enseignement pour ce matin. On va continuer demain. Demain, ce sera le verset que je me retrouve, le verset 15 que nous étudierons, strictement le verset 15. Donc, on vous invite à être là demain matin à partir de 8h30. Ce soir, on se rappelle que c'est le pasteur André qui nous accueille depuis son petit bureau à la maison pour notre étude sur notre cours sur le livre des Actes et sur l'Église primitive. Donc, on vous invite à être là. On va prier simplement pour remercier le Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette parole qui assurément vient chercher bien des choses chez nous, vient toucher bien des choses qui peuvent être douloureuses parfois dans nos vies. Ça nous rappelle toutes ces occasions où on n'a pas bien réagi par rapport au départ de quelqu'un, où on a pris les choses en main, on a fait sentir notre mécontentement, notre ressentiment, voire même une certaine rétribution, une certaine vengeance à l'égard de cette personne. Alors nous prions, Seigneur, que tu nous pardonnes. Et nous relâchons, Seigneur, toute rancœur qu'on pourrait avoir gardée jusqu'à présent par rapport à un frère et une sœur qui auraient mal agi à nos yeux ou envers notre personne selon notre pensée. On les libère, on leur pardonne, on leur accorde la grâce comme celle-ci nous a aussi été accordée. Mais de surcroît à cela, Seigneur, on prie que nous apprenions de cet enseignement d'aujourd'hui. Afin que si demain une même situation survenait de nouveau, nous puissions maintenant réagir adéquatement. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière l'excuse qu'on ne savait pas, qu'on a été pris de court. Tu as pris ce temps, tu prends ce temps aujourd'hui, cette semaine, pour nous instruire comment vivre le départ de quelqu'un, comment vivre le départ d'un associé, comment vivre le départ d'un ami, d'un frère, sans nous-mêmes être répréhensibles dans le processus face à toi. Alors instruis-nous, parle à ma sœur, parle à mon frère, éclaire-les par ton esprit, oint cette parole par ton onction, afin, Seigneur, qu'elle aille toucher même des domaines qu'on a enfouis dans notre vie. Des domaines qu'on a enfouis dans notre cœur, des sujets qu'on ne veut plus traiter, mais qui ont besoin d'être réglés parce que c'est tout simplement de la poussière qu'on a accumulée sous le tapis. Alors aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à pardonner, aide-nous à faire grâce, aide-nous à avancer dans la générosité, dans la bonté. Aide-nous à ne pas avoir peur de nous donner les uns aux autres et d'aimer pleinement et de nous associer, ne serait-ce que pour une saison, ou quelques saisons, mais que les fruits de ce temps où nous travaillons ensemble soient des fruits qui t'honorent à toi jusque dans l'éternité. Merci pour ta parole. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà, c'était la parole pour ce matin. Je vais voir si je suis capable de faire défiler quelques noms pour saluer, que je remonte un peu les dernières personnes. Bonjour Yaoi, bonjour Julie, bonjour à la sœur Florie, au frère Louis, bonjour à Denise, Shivrani, Dieu te bénisse, content de te voir avec nous, bonjour à Christophe et aux enfants, j'aime ton prénom, voilà. Bonjour à Myriam, bonjour à Aniris, bonjour à Rosie, et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour à Gladys, que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc ce soir à 19h avec le pasteur André, sinon on se retrouve demain matin 8h30 pour notre bénédiction matinale. Pour la suite de cette réflexion sur une semaine de départ, une semaine de décision. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous et bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.